Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. L'appel à la solidarité après deux séismes en Turquie et en Syrie. Il y a plus de 2300 morts ce lundi après-midi. Bilan qui ne cesse de s'alourdir. Il y a également des milliers de blessés et de sinistrés dans les deux pays. Le président de l'UMF, Mohamed Moussaoui, a demandé aux mosquées de France d'organiser des collectes. Vous l'entendrez. La solidarité internationale s'organise après ces tremblements de terre, ressentis également au Liban. Notre invité sera Dominique Angeloni, chef de mission à Secouristes sans frontières. Les forces israéliennes ont tué 5 Palestiniens lors d'un raid à Jéricho en Cisjordanie occupée. Une réunion internationale consacrée au Liban ce lundi à Paris. Objectif, trouver des solutions pour aider le pays à sortir de la crise. Un nouveau drame lié au monoxyde de carbone en Algérie. 5 membres d'une même famille sont morts samedi soir dans le sud du pays. Le début ce lundi du débat au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale du projet de réforme des retraites. Anas Kazib, cheminot, porte-parole de Révolution Permanente, sera l'invité de Pluriel à 19h et 23h. Il s'oppose fermement à cette réforme. Il nous dira pourquoi. Deux violents séismes de magnitude 7,8 puis 7,5 ont frappé la Turquie et la Syrie. Il y a plusieurs milliers de morts et plusieurs milliers de blessés, bilan toujours provisoire. Le tremblement de terre a aussi été ressenti au Liban où il n'y aurait pas de victimes. Le ministère libanais de l'éducation et de l'enseignement supérieur a annoncé la fermeture de toutes les écoles publiques et privées du Liban jusqu'à mercredi. De nombreux pays, dont la France, envoient de l'aide. Parmi les nombreuses associations qui lancent un appel à la solidarité, l'Union des mosquées de France, son président Mohamed Moussaoui.
Nous avons eu cette terrible nouvelle de deux séismes très élevés en magnitude et qui ont causé, d'après les informations, des centaines de morts et des milliers de blessés en Turquie et en Syrie. Et je souhaite tout d'abord, bien sûr, présenter mes condoléances, mes sincères condoléances aux familles des victimes, souhaiter un prompt rétablissement aux blessés, et j'ai appelé dès ce matin l'ensemble des mosquées de France à prier pour toutes celles et ceux qui ont été touchés par cette catastrophe. Ailleurs, nous avons déjà commencé à sensibiliser nos mosquées pour organiser des collectes de fonds et de toute aide possible pour venir en aide aux victimes. Je suis rentré en contact avec nos concitoyens franco-turcs et les organisations qui les représentent ici en France pour voir quels sont les besoins urgents qui se sentent tout de suite et qu'est-ce que nous pourrions faire. Et d'après nos frères donc franco-turcs, il est souhaitable en fait de collecter des fonds pour permettre l'achat au niveau des villes qui n'ont pas été touchées. C'est plus simple en termes de transport, en termes logistique. Donc c'est ce que nous allons effectivement faire dès aujourd'hui. Et nous espérons continuer donc à collecter les aides pour toutes les victimes en Turquie et en Syrie pendant toute la semaine qui vient.
Vous le soulignez, hein, cet élan de solidarité, il est indispensable aujourd'hui pour les victimes turques et pour les victimes syriennes.
Tout à fait. Je pense que dans des circonstances pareilles, il faudrait effectivement que tout le monde s'y mette et la solidarité doit s'exprimer à haut niveau. Et je pense que toutes les personnes qui verront, qui ont pu voir les images terribles qui nous parviennent des endroits touchés, seront bien sûr sensibles à cet appel à la solidarité, à l'aide. Et nous espérons qu'elle sera très grande et à la hauteur des attentes de celles et ceux qui attendent cette aide.
Cet élan, cette émotion, vous les ressentez déjà?
Tout à fait. Les premiers contacts que j'ai eus, dès que le premier appel a été fait pour les aides, j'ai eu une réponse immédiatement positive de tous ceux qui l'ont reçu. Et il y a une volonté effectivement d'apporter leur contribution au plus vite.
Le président de l'Union des mosquées de France, président du CFCM, Mohamed Moussaoui. Les secours ont engagé une course contre la montre pour tenter de retrouver les survivants après ces tremblements de terre. Le vice-président turc indique que plus d'un millier d'immeubles se sont totalement effondrés. En Syrie, les victimes ont été recensées à Alep, deuxième ville syrienne, dans le nord du pays, ainsi qu'à Hama, dans le centre, et Latakia et Tartous, sur la côte méditerranéenne. Dominique Angeloni, chef de mission à Secouristes sans frontières, nous dit quelles sont les premières actions à mener après une telle tragédie.
Déjà, il va falloir En premier lieu, géolocaliser déjà quels sont les centres où le tremblement de terre a fait le plus de dégâts, définir des priorités, une stratégie d'engagement, voilà. Quels sont les moyens sur place? Là, les premiers, dans l'opérationnel, les priorités sont déjà de localiser déjà les personnes ensevelies. Ça, c'est la priorité. Et ensuite, mettre en place tout ce qui est les techniques de dégagement des victimes. Et ensuite, la partie prise en soins médicales d'urgence.
Le fait que ce séisme soit intervenu la nuit, c'est un facteur aggravant?
Oui, c'en est un, parce que la nuit, les gens sont couchés. Et forcément, c'est là où il y a, en règle générale, le plus de victimes, parce que la journée, les gens travaillent, sont plutôt dans les bureaux ou alors à l'extérieur. Et là, malheureusement, la nuit, quasi la totalité du personnel, enfin des personnes, la population est dans leurs chambres ou dans leurs habitations. Là, effectivement, c'est le cas le plus critique.
Vous évoquez la localisation des victimes. De quels moyens dispose-t-on aujourd'hui pour localiser les victimes d'un point de vue technologique?
Du niveau technologique, la plus belle technologie qu'on puisse avoir pour le moment, c'est les chiens, effectivement, les chiens de recherche. Ensuite, ça va être les appareils de localisation par son, de type vibraphone, voilà, à condition que les personnes soient conscientes, voilà. Et ensuite, ça sera les appareils de localisation par vidéo, ce qu'on appelle les vibrascopes. Mais on est déjà dans les phases déjà bien entamées de localisation. Mais là, la première des choses, c'est un appel à la voix. Si la personne est consciente, elle va répondre. Ça nous permet de la localiser. Deux, c'est le chien qui, lui, consciente ou pas consciente, je ne parle pas de vivante ou décédée, je parle des victimes ensevelies. Le chien ne va pas faire de différence, lui, voilà. Consciente ou inconsciente, le chien va localiser la victime, et nous, après, on va mettre en place tout ce qui est technique d'extraction pour sortir la victime au plus vite, parce que là, le facteur aggravant dans les premières heures, c'est le temps.
Justement, de nombreux pays ont annoncé qu'ils allaient apporter de l'aide. Comment cela doit se traduire? Quelle est la première aide nécessaire?
Déjà, il faut que le pays, la priorité absolue, c'est que le pays fasse déjà la demande d'un soutien international, ce qui est le cas de la Turquie. Je crois, je dois confirmer que la Syrie a fait aussi appel à cette demande, parce que la Syrie a été, elle aussi, gravement impactée. Par contre, là, on n'a pas beaucoup d'infos, pas beaucoup de retours, comme c'est un pays en guerre. Cela dit, nous, on est complètement neutre, on intervient où il y a besoin par rapport à tout ça. Et ensuite, ça va être monter une équipe en fonction des besoins sur place. Si c'est une partie technique, donc c'est ce que je vous ai dit précédemment, caméra, chien, pour la recherche, et aussi une équipe, ce qu'on appelle SD, c'est-à-dire sauvetage des bléments, c'est pour l'extraction. Et en parallèle, évidemment, ça va être une partie médicale sur place, parce que en France, ce serait pareil. Il faut s'attendre à ce que tous les hôpitaux du coin soient complètement saturés par les victimes qui vont arriver par dizaines, quoi. C'est clair. Avec toutes des pathologies différentes, des blessures plus ou moins graves, mais la saturation des hôpitaux, elle y sera, fatalement.
Lors d'un tremblement de terre, quel est le comportement à adopter lorsque ce séisme survient?
Moi, je parle par expérience. En règle générale, j'ai vu que ça, j'ai rien vu d'autre. Et la population locale aide. Elle fait tout ce qu'elle peut pour aider. Voilà. À tous les niveaux, au niveau matériel, au niveau technique, au niveau logistique, si on a besoin d'eau sur place. Parce qu'évidemment, on peut pas partir avec un avion rempli de 30 tonnes d'eau. Donc tout ça va être l'apport de la population locale qui va aider les sauveteurs, mais qui va elle aussi aider les populations, la population sur place. Et on a toujours plein de bénévoles. Les locaux sont toujours de bonne volonté et aident au maximum de ce qu'ils peuvent faire.
Et vous-même, à Secouristes sans frontières, vous allez vous rendre sur place?
On est en train de monter l'équipe, donc on finalise un peu l'équipe, et on est en train de définir déjà quels sont les besoins sur place et quelle est l'assistance que nous pouvons apporter. Voilà. Et en fonction de ça, une fois que tout est défini, on monte une équipe, puis on part le plus tôt possible.
Parce que c'est une aide sur le long terme après une telle catastrophe et un tel bilan.
Oui, alors nous, c'est pas trop notre job, voilà. Nous, notre job, c'est, on est spécialisé, nous sommes spécialisés dans la localisation, extraction des victimes et prise en charge. Ça, c'est dans l'urgence. C'est-à-dire que nous, on localise, on trouve, et après, la victime part, part sur un hôpital, ou alors avec notre équipe médicale qui sera sur place. Voilà, ça, nous, c'est vraiment du secourisme et de, du secourisme de catastrophe d'urgence. Voilà. Après, par contre, il y a des équipes beaucoup plus lourdes, beaucoup plus spécialisées dans la prise en soin sur le long terme, comme la Croix-Rouge, comme notre équipe, hein, d'ailleurs, hein, pas que, hein, qui, eux, vont rester pendant des semaines et des mois derrière, notamment pour redonner un abri à ces personnes, à continuer, parce que là, il faut s'attendre à ce que des familles ont perdu tout. Je parle même pas dans le malheur de leur famille, hein, je parle au niveau matériel, hein, la famille, évidemment, c'est au-dessus de tout ça, mais qui n'ont plus rien, plus d'habits, plus de quoi se chauffer, plus de quoi manger. Bon, ces personnes, post-catastrophe, il faut les soutenir. Hein. C'est la vie, pour elles, elle doit continuer quand même. Hein. Un abri, une tente, en attendant que tout ça se remette en place, et qu'on reconstruit un peu leur vie et puis leur habitat, leur maison, leur trouver un foyer, enfin des choses comme ça. Ça c'est plus notre mission, c'est d'autres structures. Qui elles sont spécialisées là-dedans, qui vont prendre le relais. Hein.
Avec une aide psychologique, hein, qui bien entendu est très importante lors de ces moments.
Oui, bien sûr, non. Après, l'aide psychologique, nous on a, mais c'est pas trop notre tasse de thé, parce que l'aide psychologique, il faut qu'elle soit sur le long terme. Et je sais que la Turquie, qui eux sont quand même assez spécialisés dans la gestion des tremblements de terre, ils ont des grosses équipes extrêmement bien faites. Eux ont ces structures, ils savent accompagner les victimes. J'ai travaillé avec eux déjà à l'étranger comme en manœuvre, mais eux ils sont vraiment très bons.
Dominique Angeloni, chef de mission à Secouristes sans frontières. Les forces israéliennes ont tué 5 Palestiniens lors d'un raid à Jéricho en Cisjordanie occupée. Le Hamas a indiqué dans un communiqué qu'il portait le deuil de membres de sa branche armée. Cette nouvelle incursion militaire israélienne intervient sur fond de crainte d'un nouvel embrasement du conflit israélo-palestinien. La situation sécuritaire s'est nettement dégradée depuis le début de l'année. Une réunion consacrée au Liban se déroule ce lundi à Paris, au rendez-vous des représentants français, américains, saoudiens, qataris et égyptiens. Une réunion internationale alors que le Liban est confronté à une très grave crise économique et ne parvient pas à élire un président en raison d'une classe politique très divisée. La ministre des Affaires étrangères française a fait part de sa préoccupation très vive sur le blocage que connaît le Liban. La junte au pouvoir au Mali a expulsé le directeur de la division des droits de l'homme de la mission de l'ONU, une mesure après un discours violemment critiqué par le pouvoir malien. Un nouveau drame lié au monoxyde de carbone en Algérie. 5 membres d'une même famille sont morts samedi soir dans le sud du pays. Ils ont été asphyxiés par le monoxyde et dégagés par un appareil de chauffage. Ce drame porte à plus de 60 le nombre de décès par ce type d'intoxication depuis le début de cette année. Le début ce lundi du débat au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale du projet de réforme des retraites en France. Anas Kazib Cheminot, porte-parole de Révolution Permanente et l'invité de Pluriel à 19h et 23h, il s'oppose fermement à cette réforme. Il nous dit pourquoi.
C'est une réforme qui est injuste, mais qui ne sert à rien. C'est-à-dire que même le président du Conseil d'orientation des retraites a expliqué que le système des retraites, il était à l'équilibre, que peut-être il pourrait y avoir une phase de déficit, mais qui serait comblée quelques années par la suite. Et donc, en fait, la seule raison pour laquelle ils font cette réforme, c'est simplement pour casser le calcul des pensions de retraite, pour faire en sorte que on parte avec des pensions de retraite diminuées, parce qu'il n'y a aucun patron qui veut d'un salarié à plus de 60 ans. Et je pense que déjà aujourd'hui, alors qu'on n'est pas encore à l'âge de départ à la retraite à 64 ans, on voit qu'il y a plus de 50% des seniors qui sont au chômage. C'est quelque chose d'assez incroyable de se dire qu'il y a un retraité sur deux qui, avant de liquider sa retraite, est au chômage avant de toucher sa pension. Et donc ça interroge et ça doit nous interroger sur le fait que oui, les patrons, ils dégagent les salariés. Moi, je le vois à la SNCF, dès que vous avez des problèmes de dos, dès que vous prenez des médicaments, dès que vous faites de l'apnée du sommeil, dès que vous avez du diabète, de l'hypertension artérielle, bref, tout ce qui emmerde, pour dire de cette manière-là, le patron, dans sa production, dans le fait que ça peut le ralentir, dans le fait que votre salaire avec votre ancienneté lui coûte beaucoup plus cher, ils bazardent les salariés. Et donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est que les gens n'iront même pas à la retraite à 64 ans. En fait, soit ils seront au chômage, soit ils seront au RSA. Par contre, l'impact réel de cette réforme des retraites, ça va être sur la pension. Parce que ce n'est pas la même chose de partir avec une pension à taux plein calculée sur vos salaires qu'une pension dans laquelle on va calculer des années de chômage ou des années de RSA.
Alors, le gouvernement répond à cette critique en proposant un index pour inciter les entreprises à recruter ou en tout cas à ne pas licencier les seniors. Cet ajustement ne compense pas la mesure phare, c'est-à-dire le départ à 64 ans ?
Pour répondre par la fin, non. Pour moi, il n'y a rien à négocier dans cette réforme des retraites. Je ne dis pas que le système des retraites actuel est fantastique. Je pense qu'il est supérieur à ce qui existe dans le monde entier, très sincèrement. Néanmoins, je pense qu'on peut l'améliorer. Je pense qu'on peut même descendre, moi je dis, l'âge de départ à la retraite, notamment pour les métiers pénibles, d'augmenter les pensions de retraite, de faire des meilleurs calculs. Vous savez, en 1993, Édouard Balladur avait fait passer le calcul des 10 meilleures années de retraite aux 25 meilleures années. Comme moi je dis, pour simplifier, couper un gâteau en 10 parts ou 25 parts, ben vous allez voir que la part est beaucoup plus petite avec 25. Et donc, on devrait améliorer ces choses-là. Mais c'est un nivellement par le haut. Maintenant, sur le fond de la question, sur cette histoire d'index, enfin, il n'y a aucune obligation. La seule chose qu'ils disent réellement, c'est de calculer l'ensemble des postes et des métiers seniors dans l'entreprise, avec aucune garantie de maintien dans l'emploi, avec rien de spécial. Enfin, déjà aujourd'hui, je veux dire par là, je vous donne l'exemple des travailleuses et des travailleurs handicapés. On a facilité au patronat de devoir payer à des maisons, les MDPH, comme on les appelle, les maisons pour les personnes en situation de handicap, de leur verser de l'argent pour éviter d'employer des salariés en situation de handicap. Et on voit que les gouvernements, ils font rien pour essayer d'imposer quoi que ce soit, la moindre contrainte possible au patronat. Et je pense que le gouvernement d'Emmanuel Macron est peut-être le meilleur gouvernement à le démontrer, ça. Que depuis le départ, ils n'ont fait en sorte que d'attaquer les acquis des travailleuses et travailleurs.
Anas Kazib, cheminot, porte-parole de Révolution Permanente, invité de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. Et ce mardi va être marqué par une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une troisième journée de grève nationale à l'appel de l'intersyndicale, CFDT, CGT, FO, CFE, CGC, CFTC, UNSA, Solidaire, FSU. Un TGV sur deux devrait circuler, 3 TER sur 10 en Ile-de-France. Seules 3 lignes de métro fonctionneront normalement. Des perturbations aussi dans les airs. La Direction Générale de l'Aviation Civile demande aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur 5 à l'aéroport d'Orly. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programmes à l'écoute de Radio Orient.